Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, queremonos rebelar. Ergámonos mulleres, rachemos.
Féministe sur Radio Galère. Merci d'être là. Alors, je suis en train de vérifier en même temps les micros parce que je vois que ça. Voilà. Ok, ça y est, ça marche. Pardon. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'écoféminisme parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et pour cela, je m'appuie sur une interview faite par Francine Sporanda, que je salue, qui est une grande féministe et qui a un site qui s'appelle Révolution Féministe, que je vous invite à regarder. Vous y apprendrez énormément sur, sur les luttes et sur votre formation de féministe. Et donc, elle a interviewé, Francine Sporanda a interviewé une femme qui s'appelle Catherine Albertini. Donc, Catherine Albertini, elle est docteure en pharmacie, elle est féministe, elle a collaboré au sein du bureau de Choisir la cause des femmes, présidé par Gisèle Halimi. Elle a collaboré aussi à la pénalisation des clients de la prostitution. Prostitution sur laquelle elle a écrit de nombreux articles publiés dans les médias en France comme au Québec. Elle a également été à l'initiative de la traduction en français de l'œuvre majeure de Catherine MacKinnon qui s'intitule « Le féminisme irréductible » aux éditions des femmes Antoinette Fouque en 2005. Actuellement, elle est chargée d'une mission sur le travail des femmes en agriculture et sur la biodiversité. Et elle a écrit son dernier livre qui s'intitule « Résistance des femmes à l'androcapitalocène ». Alors dans son livre, elle parle de la pionnière de l'écoféminisme qui est Françoise Daubonne, très connue donc dans les années 70. Françoise Daubonne parlait de prométhéisme comme caractéristique de l'idéologie mâle. Qu'est-ce que c'est que le prométhéisme ? Eh bien, Catherine Albertini nous l'explique. En fait, dans le mythe grec, Prométhée, un titan, dans le désir d'affronter Zeus, fait don du feu aux hommes. Il confie ainsi aux hommes le pouvoir divin sur le feu, c'est-à-dire la démesure, l'hybris qui le caractérise lui-même. Le prométhéisme est par conséquent une métaphore du progrès, la maîtrise du feu, mais aussi l'impossibilité de poser des limites, ce qui, aux yeux de Françoise Daubonne, est la marque de ce qu'elle appelle l'idéologie du système mâle. Elle explique que les femmes sont entrées dans des métiers masculins, mais que les hommes restent presque totalement en dehors des métiers féminins, c'est-à-dire habituellement donc soins et services. Et les femmes n'ont pu entrer dans ces métiers masculins qu'en déléguant leurs tâches féminines, souvent à des femmes prolétaires ou issues de l'immigration. Voilà, voici ce qu'elle en dit, Catherine Albertini. Les femmes ne sont entrées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les métiers masculins qu'à la marge. En majorité, les femmes occupent toujours des travaux associés à la domesticité à l'extérieur de leur foyer. Caissières, secrétaires, infirmières, aides ménagères, assistantes sociales, institutrices, voire médecins ou professeurs. Métier tourné vers le care. Dès qu'une profession se féminise, elle est dévalorisée. C'est actuellement le cas pour les enseignantes. Au sein de l'université, les places les plus prestigieuses sont encore occupées par les hommes, en droit ou en médecine. Et ne parlons pas des grandes entreprises, ni même de la représentation politique en France et dans les pays d'Europe de l'Est et du Sud, ni de l'organisation de la société, les hiérarchies sociales et les compétitions n'ont pas été décidées par les femmes. La délégation des tâches domestiques à des femmes, le plus souvent issues de l'immigration, légale ou clandestine, est liée à la double, voire à la triple journée des femmes qui ont des enfants et une profession les obligeant à être à la hauteur, entre guillemets, de leurs collègues masculins, c'est-à-dire condamnés à en faire plus. En effet, une étude de la revue Nature d'il y a une quinzaine d'années montrait que les femmes devaient être 2,5 fois plus productives que leurs collègues masculins pour obtenir le financement de leurs recherches ou des promotions équivalentes. Alors, elle dénonce aussi dans son livre la gauche et les mouvements écologistes qui, selon elle, ne sont pas assez critiques de la domination masculine. Et elle explique qu'il ne peut y avoir une écologie cohérente sans critique de la domination masculine. Donc voilà ce qu'elle en dit, je la cite. Puisque la domination masculine est fondée sur la dualité nature-culture et leur hiérarchisation, les femmes étant associées à la nature et à sa supposée passivité, les hommes à la culture, à la technique, à l'innovation et au progrès, alors la réification des femmes et de l'environnement sont les conséquences directes de cette domination. L'exploitation de la nature, considérée comme un don sans valeur, correspond à sa maîtrise. La maîtrise est une qualité liée à la raison depuis Descartes. C'est ce que Françoise Daubonne qualifie de prométhéisme, la perte du sens des limites. La domination ne connaît pas la notion de limite. Plus que les écologistes eux-mêmes, qui bien souvent cherchent des solutions techniques du style voiture électrique ou éolienne, les écoféministes se rangent davantage du côté des peuples qui ont toujours su se limiter en envisageant la vie humaine et l'environnement de façon holistique, comme un cycle où tous les êtres vivants, humains, animaux, plantes, micro-organismes, sont interdépendants. Les écoféministes considèrent donc que l'écologie doit prendre en compte les connaissances indigènes. Il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus de scientifiques qui appellent à la reconnaissance des savoirs indigènes, notamment leur sens de l'observation fine pour la protection de l'environnement et la prédiction des changements climatiques. Les écoféministes considèrent aussi que l'écologie doit renoncer à la domination masculine, à ses hiérarchies et à la maîtrise qu'elle suppose. Alors un autre point qui est important, donc souligné dans l'interview de Francine Sporanda, c'est qu'elle explique que l'organisation néolibérale du système mondial de production est incompatible avec l'égalité homme-femme. Voilà ce qu'elle dit. L'empowerment des femmes par les grandes organisations internationales, telles que Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc., est devenu au niveau international un synonyme de développement. Les femmes doivent être intégrées à l'économie formelle. Mais il faut bien prendre conscience que le développement n'a pas de signification quand des intérêts financiers sont à la manœuvre. Le développement se fait alors toujours aux dépens du plus grand nombre dans un monde fini et fabrique donc de la pauvreté et du sous-développement, même dans les pays riches. Et pour beaucoup, le développement est une violence qui conduit à des guerres. L'accaparement des terres par des groupes agro-industriels ou miniers se fait au détriment de la petite paysannerie et notamment des femmes. Quand les hommes migrent pour avoir du travail dans les villes, dans leur pays d'origine, à l'étranger ou dans des pays du Nord, les femmes n'ont pas plus de pouvoir, ne sont pas empouvoirées, si on dit empowerment à la française, mais dépossédées. Dans ces contextes où elles ont perdu des droits coutumiers sur la terre et donc sur la gestion de leur environnement, elles aussi doivent souvent migrer ou sous-vivre, je préfère ce néologisme à survivre, avec leurs enfants en travaillant sur les terres de grands propriétaires où elles subissent fréquemment des abus sexuels, ne serait-ce que quand elles demandent un emploi ou réclament leur salaire. L'index élaboré par les grandes institutions internationales, avec elles il faut toujours tout quantifier, pour mesurer cet empowerment des femmes, est à cet égard éloquent. En 2017, le Nicaragua était considéré comme un pays aussi égalitaire que les pays du nord de l'Europe, ce qui a bien fait rire les Nicaraguayennes, qui n'ont pas le droit d'avorter et sont fréquemment victimes de violences physiques et sexuelles. Alors ensuite, elle explique que partout, des femmes se lèvent pour lutter contre la destruction environnementale de l'androcapitalisme. Voilà ce qu'elle dit sur ces mouvements de femmes. Les bases idéologiques de ces mouvements sont autant de visions du monde. Elles sont variées, mais toutes reposent sur la volonté de recréer des communs, notamment des terres communales, sur la coopération entre femmes et la volonté de maintenir ou de restaurer des systèmes agricoles favorisant la biodiversité afin de lutter contre la faim qui leur est imposée par le développement. Donc, ces femmes sont anticapitalistes. Elles s'opposent au capitalisme des enclosures qui leur a été imposé de l'extérieur et qui s'est maintenu pendant et après la colonisation. En Amérique latine, les apatistes ont revendiqué des droits sur leurs terres et mis en avant leur identité indigène. Les femmes ont joué un grand rôle dans la rébellion et obtenu les droits révolutionnaires des femmes. La Via Campesina, en lien avec la Marche mondiale des femmes, lutte dans une soixantaine de pays contre le capitalisme agro-industriel et pour la souveraineté alimentaire fondée sur l'agroécologie, l'indigénéité et surtout sur l'égalité entre les sexes, afin de faire reconnaître le rôle crucial des femmes dans les systèmes alternatifs de production d'aliments appropriés aux diverses cultures. La cuisine est une composante essentielle de l'identité culturelle, ainsi que Lévi-Strauss l'a souligné, et on peut donc en déduire que contrairement au dualisme nature-culture dans sa version occidentale, les femmes ont co-créé la culture. En Inde, le mouvement Chipko, inspiré par la non-violence prônée par Gandhi, a eu pour base la lutte de femmes, pour la plupart illettrées, contre la déforestation qui menaçait les conditions de subsistance alimentaire de leurs familles, en refusant le marché de dupes du travail salarié et la hiérarchie entre travail salarié et non salarié, ce que beaucoup d'hommes ne voyaient pas. Le mouvement de la ceinture verte au Kenya, par le biais de la reforestation d'arbres en l'honneur des femmes, a fini par devenir un mouvement politique en défense de la démocratie, du pluralisme politique et pour la paix, car la perte d'accès à des ressources naturelles, comme l'eau, le petit bois, les lopins de terre à cultiver, conduit à des conflits. Son succès est dû en grande partie à l'activisme pugnace de Wangari Maathai pour la cause des femmes et de la biodiversité. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les femmes se sont opposées, soutenues en cela par l'armée et les étudiants, à la vente de leurs terres communales à de grands groupes internationaux venus aider, je cite, aider les indigènes à se développer, c'est ce qu'ils disent, mais plutôt enclins à forer leurs ressources minières ou à pratiquer des monocultures pour l'exportation. Les femmes qui se rassemblent pour mettre en commun leurs faibles revenus et qui en recrutent d'autres depuis l'Afrique du Sud à plus de 30 pays afin de pratiquer l'entraide au jour le jour et de construire des projets sanitaires ou agricoles sont aussi des héroïnes qui recréent des solidarités internationales en défiant la finance. Elles ont démontré qu'elles étaient capables de gérer leur argent, d'anticiper des crises et en ont tiré une immense fierté, tout en améliorant leur statut social. Le point commun à tous ces mouvements, c'est que ce sont les femmes qui sont en première ligne pour contrer les dégâts du néolibéralisme qui recolonise la planète. Ces femmes, qu'elles soient éduquées ou non, sont capables de comprendre que la globalisation, notamment de l'agriculture et de l'alimentation, les dépossède de leurs terres, de leur savoir culinaire et agricole pratique, de leur souveraineté alimentaire et de leur culture, et que les conséquences sanitaires de cette globalisation sont catastrophiques. Carences, obésité, maladies métaboliques et famine. La culture et les traditions ne sont pas forcément rigides, mais évolutives. Il y a une forme de plasticité adaptative de la culture. De plus, culture et biodiversité sont intimement liées, ainsi que l'a souligné Patricia Howard. Moins il y a de cultures différentes, plus la biodiversité est menacée. Lorsque leurs luttes sont victorieuses, les femmes gardent des droits et ou en gagnent de nouveaux. Et pour le bien collectif, et non pour elle seule. C'est tout l'intérêt de l'écoféminisme, quelle que soit la forme qu'il prenne. Un aspect typique de ces mouvements de femmes est le ludique évoqué par Françoise Daubonne. Elles organisent des fêtes, des festivals d'échange, de semences qu'elles ont elles-mêmes sélectionnées, des cafés ethniques où elles proposent des recettes locales, etc. Voilà, donc très très intéressant. Donc je vous incite à aller voir de plus près. Donc cette interview, je vous rappelle, donc sur le site de Révolution Féministe par Francine Sporanda. Et il s'agissait donc de Catherine Albertini, qui a écrit notamment Le féminisme irréductible aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, en 2005, et qui actuellement est chargée d'une mission sur le travail des femmes en agriculture et sur la biodiversité, et son dernier livre Résistance des femmes à l'androcapitalocène. Donc j'espère que cela vous a intéressé, moi j'ai appris beaucoup. Ce qu'elle dit sur le fait que voilà, ces femmes qui se battent pour leurs droits, c'est pas seulement pour leurs droits, puisque c'est effectivement pour le bien collectif et non pour elles seules, ce que je trouve tout à fait vrai dans toutes les luttes féministes. Voilà. Alors, je vais enchaîner. Donc, je reprenne un petit peu mon... Voilà. Sur un autre livre qui est sorti tout récemment. Donc, vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Donc, il s'agit du livre de Titiou Lecoq qui s'intitule « Les grandes oubliées dans l'histoire ». Donc, voilà, dans l'histoire, les femmes, eh bien, malheureusement, il faut les chercher. Donc, après des mois de travail dans le cadre de son nouveau livre, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », donc ça, c'est le titre complet, avec une préface de Michel Perrault, eh bien, le scoop, c'est que les femmes n'existent pas dans l'histoire, en tout cas, d'après les programmes d'histoire de l'éducation nationale. C'est même pire, de façon contre-intuitive, quand on voit l'évolution actuelle de la société, la place des femmes dans les nouveaux programmes d'histoire est en régression par rapport aux précédents. C'est ce que soulignent des historiennes comme Véronique Garrigue et Julie Pilorger. Aujourd'hui, avec les nouveaux programmes de collège et de lycée, on constate un nouveau recul de la présence des femmes dans l'histoire enseignée, notamment dans les livres de seconde, et les enseignements de spécialité font avant tout la promotion d'un roman national tourné vers les faits militaires et les événements politiques. Seule bonne nouvelle, par contre, c'est que Olympe de Gouges est apparue finalement dans le programme de français. Alors pourquoi cette absence des femmes dans les livres d'histoire, dans notre éducation sur l'histoire ? Bien, pendant longtemps, Titiou Lecoq explique que cette absence a été facile à justifier. On pensait que les femmes étaient cantonnées aux travaux domestiques et à la maternité et qu'elles n'avaient donc pas eu tout simplement les possibilités matérielles de participer à l'histoire. Je vous avoue qu'effectivement, c'est presque, bah oui, c'est un peu ce que pense tout le monde. Quand on parle de ce sujet, souvent, c'est ce que les gens disent. Voilà, c'est comme ça. Bon. Mais en fait, la recherche a montré que c'est un mythe qui porte un nom. C'est le nom, le mythe de la femme empêchée. En réalité, c'était bien pratique de postuler que les femmes n'avaient rien fait et donc ben, on ne les cherchait pas et puis elles restaient invisibles dans notre éducation, enfin dans notre histoire. Heureusement, des historiennes surtout ont commencé à vraiment chercher les femmes dans les sources et les ont trouvées. Des femmes peintres, des femmes sculptrices, des femmes compositrices, des femmes reines, des chevaleresses, des femmes soldats, des femmes bâtisseuses de cathédrales au Moyen-Âge. Et encore plus étonnant, nombre de ces femmes ont rencontré un grand succès à leur époque. Voilà. Où sont-elles dans les livres d'histoire ? Donc l'histoire a été masculinisée. On a cru que l'ordre sexuel très figé du XIXe siècle avait existé de tout temps. C'était faux. La place des femmes dans la société a varié selon les époques. Et les femmes ont sans cesse agi. C'est notre mémoire commune, nos biais sexistes, nos préjugés qui ont masculinisé l'histoire. Cela ne signifie pas que le XIXe siècle a inventé le patriarcat. La domination masculine existait déjà, mais selon les époques, elle a pris des formes et des intensités très différentes. En outre, une société patriarcale n'empêche pas les femmes d'exploiter au maximum ce que les historiennes nomment leur agentivité, autrement dit, leur capacité d'action, y compris dans des cadres limités. Pourquoi l'histoire des femmes serait-elle militante ? C'est ce qu'on entend. On accuse effectivement les historiennes qui travaillent de faire un travail biaisé, on va dire, par leur militantisme. Alors que l'histoire qu'on apprend, qui est masculine, non mixte, ne serait-elle pas plutôt, elle, une forme de militantisme ? Et on peut interroger l'impact que cela doit avoir sur les petites filles, qui n'entendent parler que d'hommes célèbres. Pourquoi l'évolution des places respectives des femmes et des hommes dans la société française ne mériterait-elle pas d'être enseignée ? Pourquoi cela ne serait-il pas un sujet historique important ? Les décisions politiques portant sur les droits des femmes, les lois les concernant, leurs révoltes, tout cela pourrait être considéré comme méritant d'intégrer une place majeure dans les programmes d'histoire. Pourquoi toujours en faire un à côté, un encart sur la page de droite entre deux illustrations ? Pourquoi cette histoire, qui nous concerne toutes et tous, serait-elle réservée au milieu féministe ? Nous avons donc besoin de rétablir la vérité, et Titiou Lecoq dit qu'elle repense avec une certaine colère à ses cours au lycée sur la démocratie athénienne ou la Révolution française. Donc, je suis d'accord avec elle, puisque j'ai vécu la même chose dans mes enseignements d'histoire. Chaque fois, le fait que les femmes avaient été exclues de cette citoyenneté était présenté par les profs et dans les manuels comme un détail, un truc pas très important. On le mentionnait en passant pour évacuer le sujet. En vérité, considérer que l'exclusion des femmes est un détail historique et ne mérite pas la première place, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les femmes elles-mêmes sont accessoires, secondaires, anecdotiques. Il s'agirait de rétablir des vérités historiques qui ont été masquées par des préjugés sexistes que les programmes d'histoire reproduisent. Et cela, c'est une décision politique. Donc j'ajouterai que effectivement, en tant que féministe, nous luttons pour changer cela. Une décision qui devrait paraître insupportable à tout le monde, pas seulement aux femmes, parce que messieurs, ce sont aussi vos ancêtres qui ont été effacés, c'est la moitié de votre arbre généalogique sur lequel on tire un trait. Il s'agirait donc à la fois de proposer un nouvel objet d'étude dans le cadre de l'éducation nationale et en même temps de rétablir des vérités historiques qui ont été masquées par des préjugés sexistes que pour le moment les programmes d'histoire reproduisent. Donc Titiou Lecoq explique que ce n'est pas dans cet article qu'elle va pouvoir raconter comment cet oubli des femmes s'est mis en place, ni quels en sont les mécanismes, et qu'il lui a fallu donc tout le livre qu'elle vient d'écrire pour le faire. Un livre aussi et surtout pour raconter ce domaine de recherche en pleine ébullition ces dernières années, grâce à des historiennes qui, je vous le disais tout à l'heure, sont toujours suspectées d'être militantes, donc partisanes. Des historiennes qui, de la préhistoire, du Moyen-Âge, de la Révolution, du 19e siècle, des guerres mondiales, font ressurgir sous nos yeux les vies de ces femmes qui nous ont précédées et qui nous aident à devenir un peu plus libres. Parce que cette connaissance élargit notre champ des possibles et parce qu'on est plus forte quand on rétablit cette chaîne des femmes à travers les siècles. Alors, je vais vous faire écouter donc un petit extrait d'une interview de Titiou Lecoq. C'était pas avec moi, c'était sur France Inter, peu importe. Et du coup, je vais juste vous en faire écouter cet extrait qui m'a semblé intéressant parce que elle va, j'ai choisi l'extrait où en fait elle cite plusieurs exemples, donc pour compléter tout ce que je viens de dire, qui sont en fait ses paroles. Hein, elle cite plusieurs exemples historiques sur la place oubliée des femmes. Donc voilà, 2 secondes que je vérifie que ça marche le son. J'espère que oui, donc je vous fais écouter.
Vraiment, en tant que travail de recherche historique, je me suis rendu compte de ça, que on a un peu cette idée que la marche naturelle de la civilisation, c'est pour aller vers plus d'égalité.
Exactement.
Qu'on partirait d'un état sauvage d'inégalité, qu'on tendrait, voilà, avec la culture vers l'égalité femmes-hommes. Et ce que nous apprend l'histoire, c'est que c'est faux. Et qu'il y a des fois, les femmes ont gagné en liberté et d'autres périodes où elles perdent. Et c'est déjà arrivé qu'elles perdent en liberté. Mmh. Et il y a un enseignement, je pense, profondément politique là-dedans, qui est de se dire, rien n'est gravé dans le marbre. Ce qui veut dire pour nous, notre génération, qu'à l'avenir, on peut perdre des droits et des libertés pour les femmes. C'est possible, c'est déjà arrivé, mais aussi on peut en gagner.
Maintenant, il faut se battre.
Alors, ouais. si on reprend la fresque chronologique, on va commencer par la préhistoire. Dès la préhistoire, on ne parle que des hommes de la préhistoire, l'homme de Néandertal, la femme préhistorique. La femme de Néandertal, ça ne sonne pas à l'oreille. Ça veut dire que dès le début de la civilisation, c'était écrit, l'histoire dès la préhistoire n'était accordée qu'au féminin, qu'au masculin.
Alors, dès le début de la civilisation, si on dit que c'est le 19e siècle, le début de la civilisation.
Alors, moi, je suis remonté beaucoup plus loin, je suis à la préhistoire.
Oui, mais en fait, notre vision de la préhistoire a été formée au 19e siècle, qui est le moment où on découvre effectivement des restes, etc. Donc, on découvre la préhistoire. Et évidemment, les hommes du 19e siècle qui pensent vraiment que la place des femmes est naturellement à la maison, que c'est naturel, donc que ça a toujours été le cas, calquent en gros leur modèle un papa et une maman à la maison sur la grotte. Les hommes sont forcément partis chasser, ont fait du feu et les femmes étaient dans la grotte avec les enfants.
Mais d'ailleurs, dans ce livre, vous racontez votre propre conditionnement. Vous êtes même étonné à envisager que finalement, c'était normal que les dessins, l'art rupestre, soient faits par des hommes. Vous n'aviez même pas envisagé que ça puisse être une femme.
Oui, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit, je n'avais jamais imaginé que la grotte de Lascaux, ça puisse être une œuvre collaborative avec des femmes. Et en vrai, on n'a aucune preuve que ça n'ait été que des hommes. Mais on est tellement sur cette idée d'associer le génie et la création artistique avec le masculin qu'on n'a même pas pensé à autre chose.
Alors moi, j'ai beaucoup plus préféré la partie consacrée au Moyen-Âge.
Oui.
Parce que c'est une très longue période historique. D'abord, le Moyen-Âge, vous le rappelez, hein, c'est presque 1000 ans, durant laquelle les femmes étaient partout. Elles exerçaient d'ailleurs à peu près tous les métiers. Elles pouvaient être reines de France, par exemple. On l'a complètement oublié. Elles pouvaient aussi bâtir des cathédrales. On parlait des bâtisseuses de cathédrales. Pourquoi cette situation? Est-ce que ce sont les hommes, à l'époque, qui avaient accepté de laisser un peu de place aux femmes? Ou est-ce que c'était les femmes qui ont osé conquérir leur place?
Alors, sans doute les deux. Ce qui est intéressant sur le Moyen-Âge, et c'est pareil, pendant longtemps, on s'est dit, quand on dit c'est moyenâgeux, voilà, c'est un peu arriéré. Donc, on imaginait qu'elles étaient enfermées chez elles, avec leurs petits chiens en train de jouer, qu'il ne se passait rien. Et en fait, en histoire, il y a vraiment quelque chose, c'est tant qu'on ne cherche pas les femmes, on ne les trouve pas. Mais quand on a commencé à les chercher, donc quand les historiennes des années 70 ont commencé à les chercher dans les sources, elles les ont trouvées.
Et vous en avez trouvé plein d'ailleurs.
Alors, c'est pas moi. Moi,
je
me repose sur le travail des historiennes, mais elles les ont trouvées dans les registres effectivement de métiers de l'époque, où on va trouver des jongleresses, des ménestrelles, des orfèvresses. Et donc, c'est tous les noms de métiers qui existaient au féminin parce que les femmes les pratiquaient.
Mais pourquoi elles ont cette place-là à ce moment-là de l'histoire?
Parce qu'on n'est pas encore. En vrai, la société construite sur une différence fondamentale entre masculin et féminin, ça vient bien plus tard, c'est très moderne comme idée. Et à l'époque, on est sur une société qui est basée sur des classes sociales. En vrai, il vaut mieux être une femme noble qu'un homme paysan. Et ça, ça va disparaître avec la Révolution. Mais donc au Moyen-Âge, les femmes nobles, elles ont, alors ce que les historiennes appellent très joliment, je trouve, leur agentivité, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'action sur le monde.
Et puis le Moyen-Âge, c'est aussi la chasse aux sorcières, plus que la chasse aux sorciers, et ça a été favorisé par l'imprimerie Gutenberg.
Alors oui, alors en fait, on a l'habitude de l'associer au Moyen-Âge, mais c'est plutôt la Renaissance. Alors pareil, en fait, quand on prend le prisme des femmes, tout ce qu'on a appris à l'école prend une autre couleur, quoi. Ça devient la Renaissance et les lumières, ça devient beaucoup moins lumineux. Donc à la Renaissance, moi, je me souviens des cours d'histoire où je pense même ma phrase était soulignée dans mon cahier. L'invention de l'imprimerie, c'était pouvoir propager le savoir et l'humanisme dans le monde. Donc c'était forcément très bien. Quand on regarde concrètement ce qu'on publiait, les best-sellers de l'époque, il y a beaucoup de manuels de chasse aux sorcières. Alors, en France, on a assez peu brûlé.
C'est surtout en Allemagne.
Hein. Voilà. La mise en œuvre de la chasse aux sorcières, c'est plutôt dans les autres pays. Mais chez nous, on a beaucoup théorisé. Ça, c'est la France. Nous, on est dans la culture, l'intellectuel. Donc, on a eu beaucoup d'intellectuels qui ont théorisé sur comment reconnaître les sorcières, comment il faut les tuer, en les brûlant, les noyant, etc. Et ces livres, il y a réédition sur réédition parce que ça cartonne à l'époque.
Et vous faites référence à ce livre de 1487, Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, rédigé par des professeur allemand en théologie, il appelle à torturer les femmes. C'est une série de féminicides qui va succéder après ce livre.
Oui, et qui, en dehors même du féminicide pur, va créer un climat de terreur pour les femmes, notamment pour les femmes seules, parce que c'est elles qui sont visées, celles qui ne sont pas sous la protection d'un homme. Et puis, ça correspond à un moment où on commence à se méfier des femmes en général, et ça va marquer un recul. Elles vont être exclues de corporations de métiers, elles vont perdre des droits très concrètement.
La Révolution, période régressive, en fait, pour les femmes, alors que c'est un moment où on acquiert de nouveaux droits, de nouvelles libertés. C'est étrange, ça, quand même. C'est très paradoxal.
C'est très paradoxal, a priori. Alors, quand on lit les textes, on comprend un peu mieux. Effectivement, on va faire à la Révolution l'égalité, mais alors l'égalité entre les hommes, très bien, qui va être une égalité plutôt au maximum des droits, et l'égalité entre les femmes va se faire par le nivellement, par en bas. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, il y a des femmes, notamment les veuves propriétaires foncières, ont des droits de vote dans des assemblées. Là, toutes les femmes perdent le droit de vote. Donc elles ont toutes plus aucun droit, elles sont toutes égales entre elles, effectivement.
On les met complètement de côté.
Elles sont complètement exclues alors qu'elles participent à la Révolution. Mais elles participent, elles sont soldates de l'armée révolutionnaire, elles sont canonnières, elles sont journalistes, elles sont...
Il y en a quelques-unes qui réagissent, évidemment on pense à Olympe Goethe-de-Gouges dont on a déjà parlé, mais pas seulement, il y en a quelques-unes qui réagissent, mais globalement on a le sentiment quand même que ces femmes n'ont pas voulu garder, conserver ce qu'elles avaient réussi à acquérir jusque-là. C'est faux ça ou pas comme impression ?
Alors, dans les sources, on trouve, il y a un peu cette idée, mais qui est assez belle, de femmes qui sont tellement pour la Révolution qu'elles sont prêtes, effectivement, à sacrifier une partie de leurs droits pour, voilà, en se disant, mais ça viendra après, la Révolution avant tout. Et ce qu'on retrouvera au XXe siècle chez les militants d'extrême-gauche.
Un siècle des Lumières qui n'a pas brillé pour son esprit égalitaire envers les femmes. Les guerres, on a... souvent dit que la Première Guerre mondiale avait permis une libération des femmes quand elles ont remplacé les hommes au travail. Or, les historiennes ne sont pas toutes d'accord sur cette vision des choses.
Oui, c'est assez, voilà, c'est dans les découvertes que j'ai faites, c'est assez discuté parce qu'en fait, après la Première Guerre mondiale, il y a vraiment pour les hommes qui reviennent du front l'idée de, il faut retrouver la France d'avant. Et on est sur une virilité qui a été meurtrie, qui a été blessée, ça a été terrible. Il faut absolument que les femmes retournent à la maison et que voilà, on retrouve la France d'avant le massacre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut repeupler quand même la France. Et donc les femmes sont réduites à la fonction d'utérus et passent à ce moment-là les lois les plus dures de notre histoire contre l'avortement pour que voilà, les pousser à faire le plus d'enfants possible.
Un chapitre et pas mal de pages aussi sur le droit de vote des femmes. On va l'évoquer ce matin dans le milieu des années 30. Il y a une femme, hein, Louise Weiss, qui va mener ce qu'on appelle une campagne d'ironie pour convaincre ces machos, ces hommes qui ne veulent pas laisser les femmes voter. C'est quoi cette campagne d'ironie ?
Alors, elle essaye de faire des actions coup de poing. Alors vraiment, c'est le même militantisme que de nos jours, quoi. Moi, ça me parle beaucoup. Des actions coup de poing, mais qui puissent faire la une des médias en ne faisant pas passer les féministes pour des femmes trop agressives non plus. Donc, faut réussir à être dans l'humour. Mmh. Et elles font quelque chose, mais alors de nos jours, ça serait impossible. On se ferait lyncher. Elles perturbent la finale du championnat de France de foot.
Avec un ballon.
Avec des ballons où elles ont accroché des tracts, etc. Enfin,
une montgolfière, je veux dire.
Voilà. Et je me dis, mais si on faisait ça de nos jours, mais le scandale.
Ça finirait en prison.
Oui.
Mais cette Louise Weiss, elle est intéressante aussi parce que, comme vous l'expliquez très bien, on est sur une campagne d'ironie, c'est gentil. Les Anglaises sont beaucoup plus dans la radicalité. Elles m'ont apparu en tout cas beaucoup plus dures que ça. Est-ce que la radicalité est nécessaire pour les femmes pour avancer ?
Alors, la question se pose même avant Louise, Madeleine Pelletier, donc c'est fin du 19e, début du 20e, dit en gros, donc elle est, c'est la première femme psychiatre française, militante féministe pour le droit de vote, et elle dit « casser des carreaux, c'est pas bien ». Mais si le seul moyen de se faire entendre, c'est de casser des carreaux, eh ben on va les casser. Et effectivement, à ce moment-là, les femmes sont quand même, les féministes françaises sont plus dans des actions vraiment coup de poing. Elles vont attaquer des bureaux de vote. Hubertine Auclert va jeter par terre une urne. Enfin bon. Donc, elles sont dans un affrontement un peu physique. Hein.
Mais aujourd'hui encore, ça n'avance que quand il y a un mouvement radical ou pas ?
Je pense qu'il faut les deux. Parce que c'est vraiment une question de positionnement. Il faut de la radicalité. Et puis après, moi, Gisèle Halimi m'a énormément appris là-dessus. Elle était très radicale. Et puis à un moment, elle est allée voir Mitterrand. Elle s'est dit, voilà ce que je veux, quoi. Mm-hmm. Et là, elle a passé des accords.
Et là, il faut négocier.
Et n'empêche qu'elle n'entrera pas au Panthéon. Gisèle Halimi, livre, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, Titu Lecoq, vous le présentez comme un plaidoyer pour, je cite, « dévirilisé l'histoire ». Un mot d'Éric Zemmour. à qui l'on prête de grandes...
Donc voilà, donc c'était Titou Lecoq, Les Grandes Oubliées. Et là, je vais faire une petite pause musicale. Donc voilà, j'ai choisi L'Aigle Noir de Barbara. Je vous retrouve juste après.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. Son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles, comme avant. Crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle. Un beau jour, une nuit, près d'un lac.
la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, donc là, je vais vous parler d'une tribune qui est tout à fait d'actualité parce qu'elle vient de sortir. Et voilà, je suis une des signataires de cette tribune. Donc, nous ne pouvons plus nous taire, emprise idéologique sur le corps des enfants. Donc, cette tribune est à l'initiative de l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc, je vous la lis et vous comprendrez rapidement de quoi il s'agit. Nous, l'Observatoire de la Petite Sirène, collectif de professionnels profondément marqués par des valeurs humanistes et universalistes, souhaitons alerter l'opinion publique à propos d'un phénomène qui trouve un écho dans les médias, l'enfant transgenre. Si l'on assiste depuis quelques années à une inflation considérable de demandes de changement de sexe chez les enfants, et plus particulièrement chez les adolescentes, la période que nous traversons, marquée par la crise sanitaire, a probablement accentué encore les angoisses et malaises chez les jeunes. Le recours à cette offre, qui est appelée transidentité, rencontre certainement un public en quête de solutions à leur mal-être. Pensant peut-être apporter une réponse, le gouvernement écossais a émis depuis le 12 août de nouvelles directives d'inclusion LGBT selon lesquelles des enfants dès l'âge de 4 ans auront la possibilité de changer de nom et de sexe à l'école sans le consentement de leurs parents. À partir de 4 ans, sans leur consentement, et même sans que les parents soient informés si l'enfant en fait la demande. On fait croire qu'une fille pourrait devenir un garçon et qu'un garçon pourrait devenir une fille parce qu'il l'aurait décidé sans même l'avis des adultes, et ce, de plus en plus jeunes. Ce qui se passe chez nos voisins, donc l'Écosse, pourrait très vite arriver en France. La diffusion de la propagande est rapide. Elle s'infiltre dans toutes les institutions et bénéficie de moyens manifestement considérables. Des discours banalisés prétendent qu'on pourrait se passer du réel biologique, la différence sexuelle entre hommes et femmes, au profit de singularités choisies fondées sur les seuls ressentis. Ces discours mensongers qui relèvent de l'idéologie sont transmis actuellement sur les réseaux sociaux où de nombreux adolescents en mal d'identité viennent chercher des solutions à leur malaise. Au nom de l'autodétermination, véritable slogan qui séduit tous les progressistes, « Je suis libre de choisir le corps que je veux », au nom de ce prétendu droit à la liberté, des enfants et des adolescents sont convaincus qu'ils peuvent facilement choisir de changer de sexe et d'en passer pour cela par des traitements invasifs, voire des chirurgies mutilantes. Cette rhétorique, utilisée par un quarteron de militants, mais reprise par les médias, voire même par des institutions, dans nombre de pays occidentaux, fait usage de sophismes destinés à tromper. Actuellement, de nombreux pays qui s'étaient avancés dans cette idéologie sont en train de remettre en cause et d'interdire les traitements des mineurs, notamment en Suède, en Angleterre et certains États des États-Unis. Comment en sommes-nous arrivés là et avons-nous encore le droit de réagir sans se faire insulter, menacer? En quoi ces droits à l'autodétermination seraient-ils d'ailleurs un progrès épanouissant? Ce phénomène, l'enfant transgenre, est en réalité une mystification contemporaine qu'il faut dénoncer vigoureusement, car cela relève de l'embrigadement idéologique. On voudrait faire croire qu'au nom du bien-être et de la liberté de chacun, un enfant de 4 ans, délesté de l'accord de ses entre guillemets réactionnaires de parents, serait à même de entre guillemets choisir son identité dite genrée. Mais l'enfant est un être en construction. Son devenir est en constante évolution. réactualisées parfois violemment à l'adolescence, avant d'arriver enfin à un stade de maturité. Pour une fois, il existe sur le sujet une unanimité entre neuropsychologues, développementalistes, psychanalystes, pédopsychiatres, pédiatres ou tous les spécialistes de la toute petite enfance. Peut-on parler de la liberté de l'enfant et de son consentement alors que les enfants sont piégés dans l'idéologie transgenre ? L'enfant, et plus encore l'adolescent, est pris dans les filets d'une emprise dont les conséquences entraînent une déstabilisation mentale, une rupture avec la famille, si elle ne soutient pas son enfant et avec tous ceux qui refusent de partager son point de vue. Cette emprise idéologique génère un discours antisocial et accusateur, un idiome spécifique à la communauté transactiviste, voire une nouvelle langue est imposée à l'entourage. Cette emprise se traduit encore par le refus des soins classiques, prise en charge psychiatrique ou psychologique, la promotion de produits comme les binders destinés à comprimer la poitrine, ou de protocoles chimiques ou chirurgicaux, marqueurs de l'appartenance au groupe. Les discours de ces jeunes sont souvent stéréotypés, comme s'ils avaient perdu tout esprit critique, ce qui est une caractéristique de l'emprise. Nous dénonçons ce rapt de l'enfance à des fins idéologiques et mercantiles. Il nous apparaît aujourd'hui urgent d'informer le plus grand nombre de citoyens, de tout métier, de tout bord, de tout âge, sur ce qui pourrait bien apparaître demain comme un des plus grands scandales sanitaires, éthiques, que nous aurions regardé arriver sans mot dire, la marchandisation du corps des enfants. Car en persuadant ces enfants qu'un sexe leur a été assigné à la naissance et qu'ils peuvent librement en changer, on en fait des patients à vie, consommateurs à vie de produits chimiques hormonaux commercialisés par les firmes pharmaceutiques, consommateurs récurrents de toujours plus d'opérations chirurgicales dans la poursuite du rêve chimérique d'un corps fantasmé. Ces idéologies entraînent la plus grande confusion, si bien que plus personne ne sait comment agir et élever sa voix, souvent par crainte des associations LGBTQI+. Mais ce sigle recouvre des personnes bien différentes, dont certaines s'inquiètent, comme nous, des dérives actuelles. Certaines sont soumises à la loi du silence qui règne dans ce milieu. C'est le cas des jeunes détransitionneurs et détransitionneuses abandonnés à leur solitude et menacés en cas de prise de parole publique. La confusion règne, largement entretenue à des fins de manipulation, touchant l'humanité dans son substrat le plus profond qui soit, son évolution, sa temporalité, ses errances et ses doutes, au nom du rejet d'une prétendue assignation de sexe. Nous sommes en train d'assister, gênés, sans y rien comprendre, à une assignation idéologique. Ainsi, Claude, qualifié autrefois de garçon manqué du Club des Cinq, est présenté aujourd'hui comme transgenre. On pourrait en rire si ce n'était symptomatique de notre époque, frappée par des idéologies radicales qui préemptent tout débat. Non, décidément, au nom de la protection des enfants, nous ne pouvons plus nous taire. Nous refusons qu'au nom des droits à la personne, on récuse ce socle commun, l'universalisme des droits, qui constitue le fondement de l'humanité. Voilà. Donc, il y aura, je crois, d'après ce que mes informations, puisque je suis signataire de cette tribune, donc la femme à l'initiative de cette tribune nous a dit qu'il y aura bientôt une émission, je crois demain, sur par rapport à ce sujet et suite à cette tribune. Donc voilà, espérons que cela puisse faire quelque chose. Et voilà, je voulais préciser aussi que être contre le transactivisme ou contre l'expression identité de genre ne signifie pas être contre la transsexualité ou contre, contre les personnes trans, car en fait, il y a beaucoup de personnes trans qui sont contre cette idéologie. Donc ceux qui veulent nous faire avaler ça en tant que transphobie se moquent de nous et de vous. Et refuser l'identité de genre, c'est simplement refuser bien là ce que je viens d'expliquer dans cette tribune, c'est-à-dire que cette idéologie qui en arrive à ses aberrations de dire qu'à 4 ans, un enfant voilà, pourrait transitionner. Et de refuser qu'il existe aussi des modèles masculins ou féminins auxquels on devrait se conformer en fonction de son ressenti. C'est refuser l'idée qu'il soit inscrit dans les textes que les stéréotypes sexués liés à l'homme à la femme contre lesquels nous nous sommes battus pendant des décennies seraient en fait légitimes au point d'être élevés au statut d'identité. Voilà, et j'avais consacré une émission entière pour expliquer toute la complexité de ces idéologies transactivistes qui nous alarme terriblement par rapport aux droits des femmes et aux droits des enfants, comme vous l'aurez compris. Voilà. Donc, je suis obligée de faire des petites pauses, de poser un petit peu, parce que ce sont des sujets lourds et douloureux. Donc, pour continuer, du coup, faut que je choisisse. Je suis en train de réfléchir à quel sujet je voudrais choisir. Ils sont pas. Voilà. Bien. Ok, je sais. Je vais revenir sur cette affaire. Voilà. J'ai choisi, moi. Excusez-moi. Donc. Je vais revenir sur une affaire, l'affaire Valérie Bacot. Grâce à un article que j'ai trouvé très 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 intéressant du psychiatre Gérard Lopez, qui est président d'honneur de l'Institut de victimologie, qui est administrateur de Face à l'inceste, et qui dénonce le déni social qui a été illustré dans le procès de cette femme, Valérie Bacot, qui a été jugée pour le meurtre de son mari, qui était aussi son beau-père violeur. Et il dit que les associations qui luttent contre le puissant tabou qu'est l'inceste, un bref moment brisé grâce au livre de Camille Kouchner, le livre La Familia Grande, constatent que ce tabou est rapidement retombé dans le déni social qui le caractérise. Donc pour rappel, la France entière a eu fin juin, donc j'en avais parlé évidemment, les yeux tournés vers les cours d'assises de Chalon-sur-Saône, où Valérie Bacot, 40 ans, était jugée pour l'assassinat avec préméditation de son mari, Daniel Paulette. Elle encourait la perpétuité. Elle est ressortie condamnée, ce qui est pour moi tout à fait aberrant. D'ailleurs, aussi par rapport à ça, le fait qu'on puisse condamner une femme qui se retrouve en légitime défense et qui n'accepte pas d'être tuée, qui pour cela a tué son bourreau. Eh bien, il faut tout à l'heure, je vous parlerai d'une action, une pétition que vous pouvez relayer pour clarifier la loi sur la légitime défense par rapport à ça. Donc je poursuis sur Valérie Bacot. Donc je rappelle donc que pendant 25 ans, elle avait été victime, enfant puis adulte, d'un enfer de violence de la part de celui qu'elle a fini par tuer. Valérie Bacot a été du coup condamnée au cours de ce procès, donc fin juin, à 4 ans de prison, ce qui est pour moi aberrant, dont 3 avec sursis probatoire, elle aurait dû avoir aucune prison. Bon, ayant déjà effectué 1 an de détention préventive, elle a réussi à ressortir libre de son procès. En effet, si elle a tué Daniel Paulette, de 20 ans, son aîné, qui fut, lorsqu'elle avait 12 ans, 12 ans, son beau-père, violeur incestueux, avant de devenir son mari, violent, père de ses 4 enfants et prostitueur. Vous pouvez retrouver toute l'histoire, si vous ne connaissez pas toute cette histoire, soit vous pouvez réécouter un des podcasts où vous verrez que j'en parle, dans les sommaires, vous retrouvez. Sinon, si vous voulez aller plus vite et ne pas réécouter, eh bien, vous pouvez trouver un article qui résume très bien tout ce qu'elle a vécu, qui s'intitule « Tout le monde savait » et qui est sur le site du Mouvement du Nid. Mouvement du Nid, qui est une association... qui accompagne les prostituées, une association abolitionniste qui accompagne les prostituées. Alors, donc, je poursuis. Elle a donc tué Daniel Paulette pour se libérer de son emprise. Elle craignait alors que, non content de l'avoir prostituée depuis 15 ans, il s'en prenne désormais à sa propre fille, Carline, qui à 14 ans risquait de devenir à son tour une proie marchandisable. Donc maintenant, je vais vous lire par rapport à cette affaire ce qu'en dit le psychiatre Gérard Lopez, qui est président de l'Institut de victimologie et administrateur de Face à l'inceste. Il a écrit à propos de cette affaire, et ce qu'il a écrit, le titre, c'est « Violence conjugale ou inceste, déni social de l'inceste ». Valérie Bacot est une victime typique d'un inceste qui a débuté lorsqu'en rentrant de l'école, elle trouvait sa mère copulant avec des inconnus dans l'arrière-salle de la boutique qu'elle tenait, puis avec son beau-père dans le lit maternel. Sa mère l'a traînée au parloir lorsque celui-ci était détenu pour inceste commis sur une de ses sœurs, renforçant son rôle de substitut paternel. Il est possible en France d'épouser son beau-père ou d'avoir des rapports sexuels avec un de ses parents lorsque l'on est majeur. Cela interroge sur le consentement de la victime d'inceste, notamment lorsqu'elle est sous l'emprise psychologique de ce parent. Notons que notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a parlé d'inceste amoureux lors de récents débats parlementaires et qu'il a plaidé l'inceste heureux dans l'affaire Manechaise. Une illustration du déni de l'inceste, dont on peut se demander s'il fait bien partie du vocabulaire des politiques et des journalistes, notamment de ceux qui ont couvert l'affaire Valérie Bacot. Une preuve éclatante que les professionnels de la justice, les enquêteurs des brigades de protection de la famille, et non plus de protection des mineurs, comme ils s'appelaient avant, et les professionnels de santé, qui ne font que 5% des signalements et informations préoccupantes aux autorités compétentes, ont besoin de formations fondées sur les résultats de la recherche scientifique très peu développée en France sur ce sujet, et non pas sur la conviction des formateurs. L'association Face à l'inceste a mis en ligne une pétition pour rendre le signalement des enfants en danger obligatoire. Donc cette pétition, bien, vous pouvez la retrouver, je vous encourage à la signer évidemment. En réformant l'article 44 du code de déontologie médicale, qui recommande aux soignants de faire preuve de prudence et de circonspection avant de signaler un enfant en danger, et contient une incompréhensible clause de conscience. Le médecin pouvant s'abstenir en raison de circonstances, je cite, de circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de la justice en France par rapport à l'inceste. Donc tout à fait scandaleux. Je vous encourage vraiment à aller voir cette pétition. Donc pour rendre le signalement des enfants en danger obligatoire. C'est complètement dingue que ça ne le soit pas et que même au contraire. Voilà, donc rappelons que cette obligation de signalement existe dans de nombreux pays, mais pas chez nous, donc en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Autriche. Ce manque de formation et de critique des idéologies anti-victimaires se manifeste au niveau des expertises judiciaires. En France, le juge désigne l'expert de son choix, dont il connaît en général les orientations idéologiques, ce qui crée des liens d'intérêt entre les uns et les autres. Ceci plus particulièrement lorsqu'une allégation d'inceste complique et conflictualise une séparation.
le juge aux affaires familiales chargé des modalités de droit de visite et d'hébergement et le juge des enfants chargé de leur protection peuvent avoir des opinions totalement divergentes, fondées sur des expertises qui se contredisent. Là encore, notre pays, fréquemment réprimandé par l'ONU ou récemment par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'indigence de sa politique de protection de l'enfance, pourrait s'inspirer de pays voisins. Selon la thèse de Jennifer Boireau, en Suède, les expertises difficiles se déroulent dans des centres spécialisés sans que le magistrat désigne son expert. En Roumanie, les expertises se déroulent dans des instituts médicaux légaux. En Suisse, les expertises difficiles se déroulent dans des services hospitaliers et sont réalisées par des praticiens qui ont acquis une surspécialisation universitaire de psychiatrie forensique, nécessitant 2 années d'études supplémentaires. Rien de tel en France. Peut-être faudrait-il sérieusement songer à y réformer l'expertise et le mode de désignation des experts. Sur le plan factuel, lorsque le beau-père de Valérie Bacot, condamné pour inceste, est sorti de prison, cela n'a choqué ni inquiété personne à Dijon, en Saône-et-Loire, pas plus le médecin de famille que le personnel enseignant, le voisinage ou même la famille, ce qui illustre la puissance du déni. Les enfants de Valérie Bacot auraient en vain tenté de porter plainte à la gendarmerie, ce qui fut nié au moment du procès. Mais l'on sait que les victimes d'inceste, comme toutes les victimes d'événements traumatiques répétés, génèrent des contre-attitudes de rejet de la part de tout un chacun, y compris des forces de l'ordre, qui n'auraient pas retrouvé le dernier client de Valérie Bacot, alors que de notoriété publique, elle était prostituée de force sur le parking d'un restaurant. Rappelons que la loi du 13 avril 2016 reconnaît la prostitution comme une violence et que les clients risquent une amende de 1 500 € ou une condamnation à suivre un programme de sensibilisation comme alternative à la sanction. La personne prostituée peut également bénéficier d'un accompagnement pour l'aider à sortir de la prostitution. Rien de tel pour Valérie Bacot, qui générait l'habituel sentiment de rejet de la part de gendarmes, probablement mal ou pas du tout formés à cette problématique. Lors de la reconstitution sur le parking, l'un d'eux aurait dit au fils de Valérie que tout allait bien pour ce client. Après le restaurant, la pipe. Est-ce vrai ? Je l'ignore, mais cela démontrerait les sentiments négatifs que génèrent les victimes d'inceste, en raison de leurs comportements paradoxaux, abus d'alcool et de drogue, impulsivité, conduite sexuelle, agressivité, etc. Il semble qu'il aurait été utile d'entendre la déposition du dernier client de Madame Bacot, mais les enquêteurs ne l'auraient pas retrouvé alors qu'elle l'aurait croisé à plusieurs reprises à Digoin. Affirmons-le, l'affaire Valérie Bacot est hélas une banale histoire d'inceste. Dramatique certes, mais banale du fait de sa fréquence estimée à 10% de la population française. Les 3/4 étant des filles. Sondage Ipsos face à l'inceste 2020. Mais surtout en raison de la récurrence des graves complications qui affectent une majorité de victimes. Une grande difficulté à gérer leurs émotions. Des troubles de déconnexion psychique, dissociation, permettant d'atténuer les reviviscences qui les assaillent. Des troubles somatiques écrans. Des troubles de l'identité avec impossibilité de se situer comme personne. Une instabilité personnelle et sociale. Un manque total de confiance en soi et en toute forme d'aide extérieure possible. Un fort sentiment de culpabilité avec tendance à s'auto-punir, une propension à se mettre inconsciemment dans des situations répétant le scénario traumatique. C'est ainsi que de nombreuses victimes d'inceste se prostituent sans y être contraintes, contrairement à Valérie Bacot, par l'auteur des viols par inceste. Car la prostitution est un terrain parfait de répétition du scénario traumatique. Rapport sexuel transgressif, emprise d'un proxénète, aggravation de l'estime de soi. Valérie Bacot ne présente pas le syndrome de la femme battue qui a été mis en avant lors de son procès, entité qui n'a aucune existence scientifique. Mais elle présente bien un trauma complexe reconnu dans la dernière classification internationale des maladies de l'OMS, la CIM-11, un trouble que présentent les personnes qui ont vécu de nombreux événements traumatiques, souvent dès l'enfance, comme les victimes de viols par inceste. Inceste, ce mot que personne ne prononce, jamais. Valérie Bacot a été reconnue, certes, coupable, mais également victime. Elle aura besoin de soins pour traiter son trauma complexe. Elle est décidée à militer pour que ce qu'elle a vécu n'arrive pas aux autres. Il faudra qu'elle concourt à briser le tabou de l'inceste. Elle a décidé de garder les droits d'auteur de ce livre, dont le titre est révélateur du tabou. Tout le monde savait, pour fonder une association. Voilà. Donc cet article est très puissant, je dirais. Et si vous pouvez, je le mettrai donc dans le sommaire du podcast si vous voulez le relire, parce que il vous donne énormément d'informations inconnu du déni sur l'inceste et notamment de l'injustice, l'impunité de la justice face à au traitement de l'inceste. Et donc je vous encourage aussi à aller sur le site facealinceste.fr. Voilà. Donc il s'agissait, je rappelle, du psychiatre Gérard Lopez, qui est président de l'Institut de victimologie, administrateur de face à l'inceste. Et je répète aussi une action que vous pouvez faire pour faire quelque chose tout de suite, c'est d'aller voir la pétition qui demande de rendre le signalement des enfants en danger obligatoire, contrairement à ce qui existe aujourd'hui en France, où en France le soignant hésite finalement à rendre ce signalement, puisque même on l'encourage plutôt à ne pas le rendre, puisqu'on lui demande de faire preuve de prudence et de circonspection. Et à ce sujet aussi, j'avais aussi un article d'une médecin justement qui depuis des décennies signalait des enfants en danger de violence sexuelle, d'inceste, et qui pour cela a été finalement embêtée par la justice. Ça s'est retourné contre elle, ce qui est complètement dingue. Donc il faut que je retrouve cet article pour vous en faire part. Voilà, donc je regarde l'heure. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais d'abord faire une petite pause musicale. Et ensuite, je vais décider ensuite ce que je vais faire. Voilà. Donc, il faut que je trouve une petite pause musicale. Voilà, j'ai trouvé. Donc, Primacy of Number. Thank you.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors justement, voilà, pendant cette pause musicale, eh bien, j'ai retrouvé cet article sur cette histoire de rendre le signalement en cas de violence sexuelle sur mineur, de le rendre obligatoire en France. Et il s'agit donc de Catherine Bonnet, je vous disais, qui est une pédopsychiatre qui, carrément, elle a été sanctionnée pour, en France, pour avoir signalé des cas de violence sexuelle sur mineurs à la justice. Et elle avait fait une pétition. Donc voilà, je la mettrai aussi sans doute dans le sommaire. Donc c'est complètement scandaleux comment des médecins, des pédopsychiatres, des généralistes, des pédiatres, des gynécologues ont pu devenir l'objet de poursuites et de sanctions disciplinaires, voire de plaintes pénales, parce qu'ils avaient signalé des cas de violence pédocriminelle. Donc il y a un article du code pénal, c'est l'article 226.14, qui autorise la levée du secret actuellement, donc en cas de maltraitance. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc là, si je vous ai dit, on demande, on voudrait que ça change, on demande cette obligation évidemment. Donc cette obligation figure dans l'article 40 de la procédure pénale que pour les fonctionnaires, c'est-à-dire un petit nombre limité de médecins, ceux de l'État et ceux de la fonction publique territoriale. Le problème, c'est que la loi entretient un flou juridique et n'est pas assez claire en France, et cette défaillance permet des poursuites. La seule solution, c'est d'y inscrire clairement une obligation de signaler. Il n'y a qu'elle qui peut protéger les médecins du signalement et les enfants, car les médecins n'auront plus peur de signaler. Les présumés agresseurs ont souvent de bons avocats qui utilisent ce flou pour se défendre en posant nombre de questions telles que pourquoi le signalement n'a eu lieu qu'à tel moment? Pourquoi le médecin a-t-il attendu? Pourquoi le médecin n'a pas fait une enquête? Mais en réalité, ce que dit Catherine Bonnet, donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai pu retrouver sur ce qu'elle a dit, hein, sur un article qu'elle a écrit à propos de sa pétition. Donc elle dit, en réalité, nous ne pouvons que signaler et c'est au procureur d'agir. Et ce, malgré, donc elle avait écrit cette pétition, déjà, donc ça suffit vraiment, c'était le nom de cette pétition. Sauvons maintenant les mineurs victimes de violences sexuelles, une pétition donc elle avait lancée il y a un bail quand même, puisque c'était le 31 mai 2019, avec Jean-Louis Chaberneau, pédiatre réanimateur. Elle avait aussi fait une lettre ouverte à Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, qui avait été publiée en novembre 2019 sur Agora. Et sa seule réponse avait été le silence. Voilà. Donc pendant que j'y suis, je regarde le temps qui reste. Bon, oui, je vais choisir de vous lire la suite de cet article, hein, où elle raconte en fait son histoire. Donc voilà, donc c'est elle, entre guillemets. Catherine Bonnet, la pédopsychiatre qui parle. En 1997, je suis pédopsychiatre à Paris à la suite de l'affaire Dutroux. Des généralistes et des pédiatres m'envoient des enfants de plus en plus jeunes, se demandant s'ils n'ont pas subi des violences sexuelles. Certaines de leurs mères sont également victimes de violences conjugales et en cours de séparation. Mais après avoir envoyé des signalements au procureur ou alerté d'autres autorités judiciaires par des certificats, 4 plaintes disciplinaires me sont adressées. Le 5 décembre 1998, je suis sanctionnée 3 fois à 3 ans d'interdiction d'exercer la médecine en première instance pour faux certificat ou dénonciation calomnieuse. Dans les médias, des pères se plaignent et accusent les mères d'utiliser l'inceste pour obtenir la garde de leurs enfants avec la complicité de médecins. À cause de ce lynchage médiatique, ma clientèle se réduit comme peau de chagrin. Je suis contrainte de fermer mon cabinet en libéral. Je trouve un poste en CDD. Dès mars 1999, je tente alors d'alerter des parlementaires afin d'amender en urgence l'article 226.14 du Code pénal qui autorise la levée du secret professionnel. Comment est-il possible de sanctionner des médecins qui n'ont fait que l'appliquer pour protéger les enfants ? 2 amendements sont rédigés. Invité à assister au débat relatif à la loi sur la présomption d'innocence, j'attends en vain. L'impasse a été faite. 2 autres poursuites disciplinaires me sont ensuite adressées, ainsi que 2 plaintes pénales qui aboutiront à des non-lieux, dont l'une après 7 ans. Je ne suis pas la seule. De plus en plus de médecins, pédopsychiatres, généralistes, pédiatres et gynécologues deviennent l'objet de poursuites et de sanctions disciplinaires, voire de plaintes pénales.
malaise et peur s'installent dans la profession. Comment dès lors signaler pour assurer une thérapie efficace si les violences continuent ? De plus, les sanctions à l'encontre des médecins sont utilisées dans les procédures civiles et pénales des enfants, contestant la véracité de ce qu'ils ont confié à leur médecin. Le terme « dévoilement » est peu à peu remplacé par celui « d'allégation » suite à l'émergence de statistiques américaines. D'après une étude d'un professeur américain, il y aurait 30 à 70% de fausses allégations d'inceste. Cela crée un doute en France, faute d'études épidémiologiques. Les propos d'inceste révélés par des enfants semblent de nouveau être considérés comme des mensonges. Je me demande si le refus et le déni des maltraitances sexuelles à l'encontre des enfants ne se répètent pas comme au XIXe siècle. Dès 1857, Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale et doyen de la faculté de médecine de Paris, fut le premier au monde à révéler que les médecins étaient confrontés dans leur pratique à la réalité des violences sexuelles en analysant 930 cas dans un livre. À sa mort, le choc avait été tel que l'opinion médicale se retourna insidieusement contre les enfants victimes. Des médecins les accusèrent d'être pervers. La communauté médicale enterra pendant 100 ans les premières descriptions cliniques sur la maltraitance des enfants. J'ai été obligée de m'exiler pour continuer à travailler. En mars 2002, mon dernier CDD n'est pas renouvelé. Je suis au chômage, je perds mon logement. Je dois désormais m'exiler pour travailler. Heureusement, le rapport de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial de l'ONU, relatif à la pornographie enfantine et à la prostitution, venu faire une mission en France du 25 au 29 novembre 2002, précise « Le médecin, Catherine Bonnet, a été accusée de dénonciation calomnieuse, ainsi que d'avoir porté de fausses accusations. Toutefois, selon les informations reçues, ces diagnostics auraient été confirmés par d'autres experts dans chaque cas. » Après un premier accueil en Italie pour former des professionnels en périnatalité, je pars exercer au Royaume-Uni après avoir vendu ma voiture et des meubles. Une plainte pénale restant pendante, il m'est annoncé le risque d'un procès pour dénonciation calomnieuse. Juan Miguel Petit écrit alors au gouvernement français avec Ina Gilani, rapporteur des défenseurs des droits de l'homme. Cette plainte se terminera par un non-lieu. En 2007, je publie le livre « L'enfance muselée, un médecin témoigne ». Pour reprendre le combat, afin d'introduire deux mots, est tenu dans cet article 226.14 du Code pénal, qui indique, comme dans l'article 40 de procédure pénale, l'obligation de signalement au procureur de la République. Les amendements sont refusés en 2009, en dernière minute, à l'Assemblée nationale et au Sénat, lors des débats relatifs à l'inceste. Les années suivantes, d'autres tentatives sont effectuées, suivies de refus, déni, évitement, documents écartés. Pourquoi tant de peur alors que l'obligation de signaler multiplie par 4 l'identification des mineurs victimes et leur sauve la vie ? C'est dû entre autres au déni du lien entre les violences sexuelles subies par des jeunes enfants et la production de films pornographiques, comme le souligne le rapport de Juan Miguel Petit. Ce dernier a reçu des informations selon lesquelles l'élaboration de matériel pornographique impliquant des enfants français était souvent liée à des abus sexuels infligés à des enfants au sein du foyer. Une première victoire est remportée le 5 juillet 2018. Les amendements des sénateurs Alain Miron, LR et Michel Meunier, PS, sont soutenus par plusieurs parlementaires de groupes différents, en dépit du refus du gouvernement et du président de la commission des lois. Mais le 23 juillet 2018, la commission mixte paritaire les supprime. Les résistances ont repris. Ensuite, ce sont refus sur refus. Le dernier en date étant celui du 21 janvier dernier, quand l'obligation de signaler est pour la 12e fois refusée à la fin de débats accélérés. Et ce, malgré la pétition, ça suffit vraiment. Sauvons maintenant les mineurs victimes de violences sexuelles, avec Jean-Louis Chaberneau, pédiatre réanimateur. Et la lettre ouverte à Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, publiée en novembre 2019 sur Egora. Voilà, donc c'est vraiment incroyable et vrai, malheureusement. En fait, du coup, je suis arrivée à la fin de l'émission. Donc timing, pour respecter mon timing, je vous souhaite une bonne semaine et vous remercie de votre écoute et je peux aussi lancer un appel pendant que j'y suis, en fait, si, si vous écoutez cette émission, c'est ce que vous faites là, sinon vous ne m'entendriez pas, évidemment. Donc, vous pouvez me contacter sur le Facebook Révolution Féministe. Et voilà, simplement pour me soutenir, pour me dire que vous écoutez l'émission, ça pourrait m'encourager. Et puis aussi, si vous avez envie de participer à l'émission, évidemment, je suis tout à fait ouverte. Et ne serait-ce que, par exemple, une aide technique, pourquoi pas, parce qu'en fait, je fais à la fois réalisation, animation et puis technique. Et c'est pas toujours facile de faire tout en même temps. Du coup, si ça vous intéresse de venir m'aider, ne serait-ce que pour la technique, eh bien, ça serait super. Voilà. Donc, à bientôt.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui n'avons pas d'histoire.